ça va, ça me fait plaisir de te voir.
Oh là là, c'est le seul qui a un endroit climatisé.
Les amis, Chris Marquez.
Hello, hello la team.
Oh, là, 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 là.
Comment tu vas?
Content de te voir. Mais attends, le studio,
ouais.
Est-ce qu'il est pas incroyable?
Non, mais il est nickel.
Non, mais c'est un
il
truc de
super.
Fou.
Il est super, franchement. T'es très, très...
Non, mais on a une chance de fou malade. On a... pris une clim et on est trop bien.
Non mais laisse tomber.
Regarde, on va te verser un
je
peu d'eau.
Je crois que je vais rester là toute la journée. Je vous parle de ce que vous voulez.
Chris, je sais que t'es pas là très longtemps parce que t'es pressé par le temps. Je suis trop content de que tu viennes nous parler d'un truc en priorité, s'il te plaît, je t'en supplie. Explique-nous comment Chris Marquez est un des précurseurs du e-commerce.
Non mais alors, attention, il ne faut pas non plus surexagérer le fait. Mais en fait, j'ai une relation particulière à la tech, moi. C'est qu'en fait, quand j'avais 18 ans, je suis parti en Angleterre. Et au départ, je pars parce qu'en fait, je pars pour apprendre à danser parce que c'était un peu la mec, tu vois. Il y avait tous les meilleurs chorégraphes, profs de danse, etc. Et sauf que quand j'arrive là-bas, je me rends compte que j'ai besoin de vrai de financement, tu vois. Je peux pas me permettre en fait de continuer si je ne finance pas cette activité. Et à l'époque, je me dis, tu vois, c'est en 80, c'est très longtemps, hein, c'est en 97. Je me dis, il faut que je trouve une industrie qui est en pleine croissance, en pleine explosion, et il faut que je rentre dans ça parce que ça va être la seule chose qui va me permettre de gagner assez d'argent pour justement financer ma carrière artistique. Et là, je me rends compte que c'est le premier, ce qu'on appelait à l'époque, de dot-com boom. C'est l'explosion, la première explosion d'Internet.
On était au tout début.
Ouais, ouais, vraiment, vraiment tout début. Et en fait, il y a une boîte qui cherche en fait un vendeur de pièces détachées informatiques qui parle l'espagnol, le français et le portugais. Et ça tombait vachement bien, sauf que j'y connaissais rien du tout en tech. Je ne comprenais pas du tout en fait comment se construisait un ordinateur, etc. Sauf qu'en fait, je décroche l'interview. Très rapidement, je dis à ma femme, écoute, c'est quoi? Va m'acheter tous les bouquins, tous les magazines que tu peux me trouver sur comment on construit un PC, tous les magazines possibles.
Ça veut dire que je pense que beaucoup de personnes voyaient ça aussi en se disant, mais ça va jamais marcher, mais c'est quoi ce truc ou quoi? Et toi, tu t'es...
Ah, moi, j'avais une affinité.
Ah oui?
Moi, j'adorais déjà ça. Moi, tu sais, je rêvais d'un jour pouvoir envoyer un mail à un pote, tu vois, dans une autre maison. Faut vraiment qu'on se rende compte qu'il y a eu un monde avant Internet dans lequel c'était un délire de se dire qu'on pouvait s'envoyer des textos, des messages, etc., tu vois. Et donc, moi, j'ai toujours aimé ça étant gamin. Et donc là, je me dis, écoute, c'est mon opportunité. J'y connais rien, mais je vais apprendre. Et donc, très rapidement, en deux semaines, tu vois, je me bouffe toute l'information nécessaire et j'arrive
Tu t'es vraiment pris une pile de livres et tu
t'es dit je prends. Et j'arrive à mon interview, la seule question qu'on me pose, c'est est-ce que vous savez comment on construit un PC? Et là, bah, en fait, je me suis dit, bah oui, ouais, en fait, carte mère, CPU, GPU, RAM, voilà. Et en fait, je monte le truc.
J'adore fait... Chris Marquez qui nous parle de GPU, de carte mère. C'est mon meilleur moment de la journée.
Mais en fait, tu vois, on me dit tout d'un coup, on me dit, bah écoutez, super, ouais, vous êtes pris, alors super. Vraiment, la question d'entrée n'était pas très... Et donc, je commence à bosser dans cette boîte. On faisait à peu près 6 millions de chiffres d'affaires. Moi, j'étais juste un simple vendeur. Sauf qu'après 3-4 semaines, après 3-4 semaines, mon directeur général vient me voir et me fait « Écoute, t'es bon en vente, mais franchement, en marketing, t'es chaud, t'es vraiment pas mal, quoi. » Et je lui fais « Ouais, bah écoute, ça tombe bien, c'est ma spécialité, tu vois, le marketing, c'est un peu mon truc. » Pas du tout. Mytho absolu. il me dit « Mais tu voudrais pas t'occuper justement du marketing pour toute la boîte ?» On était une petite boîte, tu vois, on avait 15 personnes, etc. Et c'était un marché croissant. Et je me dis « Ouais, écoute, pourquoi pas ? Ouais, bah écoute, tu doubles mon salaire. »
J'adore.
Je deviens directeur marketing de la boîte. C'était pas bien compliqué parce que mon salaire était très bas de toute façon.
Ouais, 2 x 0 égale 0 quoi.
Mais tu sais quoi, je prends le téléphone, j'appelle ma femme, je dis écoute, tu me cherches tous les bouquins sur le marketing, la com,
elle
a total, je te jure.
Qui devait ramener à chaque fois. Ouais.
Elle avait un compte à la librairie, c'était un temps délire. Et en fait, de nouveau, tu vois, en 2-3 semaines, je commence en fait à prendre toute cette information et je la mets en place. Et au final, tu vois. Je faisais office de petit génie, mais pas du tout. On était dans un marché croissant, donc de toute façon, tout fonctionnait, tu vois. Mais c'est vrai que la boîte passe de 6 à 10 millions de livres de chiffre d'affaires en l'espace de 8 mois. Et donc, au final, bah, effectivement, je passe pour un génie, mais ce n'était pas du tout moi. Mais j'avais mis le truc en place, tu vois. Et là, quelques mois plus tard, il me dit, écoute, et c'est là que vous voyez que c'est il y a très longtemps, ok. Ouais. Il me dit, non, mais en fait, on a un problème. Notre site internet, il est nul. En 97,
bah oui.
T'imagines, c'est vraiment...
On se rend pas... en fait, je pense que beaucoup de personnes dans le chat ne se rendent pas compte de cette époque.
Il y avait un monde avant. Ouais, il y avait ça. Vraiment y avait un monde avant, avant, ouais. Tu vois. Il me dit, non, mais en fait, on n'aime pas de site internet. C'était vraiment juste, en fait, une page blanche avec le nom de la boîte dessus, tu vois. Et il me dit, tu sais pas comment on pourrait faire. Je fais, ah non, mais attends. Attends.
Attends.
Moi, les sites internet, c'est ma spécialité. Je...
Après spécialité,
c'est ma spécialité. En vrai, c'était ça, tu vois. Il me dit, mais sérieux? Je fais, non, non, mais attends. Tu doubles mon salaire.
Et ma femme, elle est revenue avec des livres.
Désolé. Jackie, tu me trouves tout. HTML, CSS, le début de JavaScript. Je comprenais rien de toute façon, mais tu me ramènes tout. Et en fait, il me dit, OK, vas-y, tu fais le site. Je prends de nouveau une pile de bouquins comme as. Alors, ce qu'il faut se dire, la vérité, c'est qu'en fait, à l'époque, en 97, tu vois, j'apprends à coder en l'espace de 3-4 semaines, mais à coder de très basique, tu vois. Mais il faut se dire aussi qu'à l'époque, on parlait de quoi? On parlait du HTML4.
Bah oui.
C'était d'une simplicité enfantine, tu vois. Oui. Ton doctype, ton head, tu mettais tes ID dedans, tu mettais tes divs.
Et du coup, t'as appris à faire un site internet.
Et j'ai appris à faire un site internet. Je lui livre un truc dégueulassissime. Dégueulasse, horrible. Un mois plus tard, mais il est ravi. Il est super content parce qu'il a un site internet, tu vois. Et je me dis, waouh, c'est quand même très, très chaud ce que je fais. Mais là, il y a un truc intéressant.
C'est
qu'en fait, je rentre dans la boîte, tu vois. Et en fait, donc, je passe par, d'une part, la vente, le marketing. Après, effectivement, le site. Et lui me dit, en fait, il faudrait qu'on se développe encore plus. Tu vois, il faudrait que là, en fait, on passe à la vitesse commerce électronique, e-commerce. Et je lui dis, bah, écoute, pour le coup, blague à part, j'ai eu une idée. Et je lui dis, tu vois, ce qui serait super, c'est qu'en fait, nous, on était revendeurs à l'époque, distributeurs, tu vois, de pièces informatiques. Je lui dis, ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, on prenne SAP, sur lequel on bossait un petit peu déjà. On enlève la base de données qui venait avec. On prend une base de données qu'on fout dans la DMZ. À partir de là, en fait, on connecte la base de données, la même, tu vois, à SAP en interne.
C'est incroyable.
Et au système externe.
C'est ce qui serait incroyable. Il y a des gens dans le chat qui ont dit, entendre Chris Marquez dire Doctype, ce n'était pas dans mon ligne.
Mais en fait, je lui dis, tu vois, à l'époque, tu sais, on était encore dans une époque, tu sais, on sortait de cette époque mainframe.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, à l'époque, les bases de données, il y avait beaucoup de duplication de data, mais un peu qui n'était pas nécessaire. C'était juste parce qu'en fait, on ne faisait pas ça très proprement. Et donc, à l'époque, je dis, bah, en fait, on prend la même base de données qui, en fait, sert les services internes et les services externes de la boîte. Et je lui dis, en plus de ça, écoute, je t'ai écrit la business logic pour un algorithme. Comme, en fait, tu peux acheter la même pièce informatique chez plusieurs fabricants et chez plusieurs distributeurs, je t'ai fait la business logic pour un algorithme qui te permet d'aller chercher en fait en tant que quasi réel. À l'époque, on faisait des cron jobs toutes les 30-40 secondes, tu vois. Et on cherchait en fait le prix de chaque pièce, le niveau de stock de chaque pièce. On regroupait en fait tout ça sous un seul SKU à l'intérieur de la base de données. Et à partir en fait du niveau de stock et des pièces que je trouvais un peu partout, je lui donnais un indice de volatilité.
Okay.
Et à partir de là, en fait, je lui attribuais donc une marge obligatoire à ajouter à ce prix-là. Ouais. Et à partir de là, en fait, on en créait...
Du pricing dynamique un
exactement,
peu.
Exactement. Ah, mais en 97, tu vois.
Ouais.
Et à partir de là, en fait, je créais un site. Mais à la place de l'utiliser nous-mêmes, en fait, comme on était distributeur, et à l'époque, il y avait énormément de petits magasins, tu vois, de fabricants PC, je lui dis, écoute, on va filer en marque blanche ces sites à chacun de nos clients qui vont pouvoir avoir leur site internet et distribution.
Ça fait un template,
de, voilà.
En fait.
Et en fait, plutôt une mini marketplace.
Une marketplace,
tu peux avoir une mini marketplace. Et donc, en fait, chaque magasin avait un stock infini, avec tout ce qu'il voulait, tu vois. Et donc, il me dit, j'ai rien compris. Mais vas-y, viens, on va chez IBM et on leur présente l'idée.
Ouais.
Et donc, je me retrouve quelques jours plus tard chez IBM Finance. Je présente la même idée. Et en fait, on repart avec une proposition de 6 millions de livres pour développer l'idée.
Mais
et donc, je développe le truc, je deviens le plus jeune directeur de commerce électronique à ce moment-là en Angleterre, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que j'ai adoré ça parce que j'avais une équipe internationale, j'avais des gens qui venaient de partout, des cultures très, très différentes. Moi, j'avais que 20 ans, 21 ans.
Ah ouais.
Et en fait, après quelques mois, je commence à être publié aux États-Unis pour mon opinion, pour mes opinions, en fait, sur la direction qu'allait prendre le commerce électronique en général. Et attends, la meilleure, elle est pas là. La meilleure, c'est qu'il y a un chasseur de tête qui m'appelle quelques mois plus tard pour me dire, écoutez, voilà, on a un client qui s'appelle Axon à l'époque. C'était une grosse boîte de consulting à San Francisco et qui me dit, ils ont vu votre profil, ils ont vu les articles en fait qui sont sortis à l'époque et ils aimeraient vous proposer en fait de venir à la Silicon Valley.
Mais non.
Et donc, ils m'ont fait un deal, proposition. C'était, ça aurait changé ma vie instantanément.
Bah oui.
S'occuper de tout. Et à ce moment-là, en fait, je rentre à midi voir ma femme et je lui dis, écoute, on a cette proposition. Potentiellement, on devient millionnaire immédiatement.
Bah oui.
Mais en revanche, c'est fini. Il n'y a plus de danse. Et moi, je ne faisais ce job.
Oui, parce que tu faisais de la danse à côté.
Mais je faisais ce job que pour payer la danse. Donc, j'étais de 9h à 18h au bureau. À partir de 19h, j'étais en répétition jusqu'à 1h du matin. Les vendredis, j'étais au bureau jusqu'à 20h.
T'as refusé une proposition dans la Silicon Valley dans les années 2000.
On a tout lâché.
Ah, vous êtes allé ?
Non, on a lâché la Silicon Valley. J'ai lâché le boulot et on s'est concentré que sur la danse. Pas la meilleure décision financière que j'ai prise.
Tu sais que t'aurais acheté même, je sais pas moi, un appart dans la Silicon Valley. À l'époque, les années 2000, il n'y avait rien
ouais.
dans la Silicon Valley.
Ouais. C'était un délire.
Et quand tu regardes en arrière, ouais. est-ce que tu te dis que t'as bien fait ou pas ?
Tu sais quoi ? Oui. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que de toute façon, j'avais réussi en fait à arriver à un niveau qui était assez sympa. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, j'apprends assez vite. Mais après, il y a quand même, il y avait quand même un gap. Moi, j'étais pas un lead tech. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'étais juste un mec qui pouvait assembler des idées assez rapidement, assez facilement, et convaincre les gens de bosser ensemble. Tu vois ? Ça aurait pas suffi, à mon avis, pour que je puisse moi exploser vraiment. J'aurais pu me faire 2-3 millions avant de. Tu vois, j'aurais pu c'est faire un peu d'argent avant.
Mais cette histoire est folle et incroyable. Et du coup, moi, j'ai une question.
Ouais.
T'as poursuivi ensuite ton chemin dans la danse, etc. Et aujourd'hui, quand tu vois la place que prend l'intelligence artificielle qui permet à des gens qui sont non techniques, peut-être, de faire de la tech, est-ce que toi, tu utilises l'IA tous les jours ou pas ?
Moi, j'utilise l'IA tous les jours. Mais tu sais, moi, il y a vraiment une espèce de contradiction. C'est qu'en fait, d'un côté, je suis artiste et l'IA fait peur parce que tu te dis, tu vois, si en fait, on confie à l'IA la responsabilité maintenant de créer, que reste-t-il à l'humain, tu vois ? Autant je me dis, en tant qu'assistant virtuel et en tant que délégué, tu vois, des tâches qui sont juste chronophages mais qui n'ont pas vraiment de grande valeur ajoutée à part opérationnelle, je me dis ça, l'IA, absolument génial. Mais si tu commences maintenant également à déléguer, on va dire, le processus de création, est-ce qu'on n'est pas en train de se torpiller nous-mêmes en tant qu'être humain, tu vois ? Moi, je suis un grand... Je pense que l'IA... Moi, j'ai aucun problème en réalité avec l'IA, tu vois. Mais je pense juste que c'est un outil qu'il faut savoir mettre en place et utiliser.
Parce que dans la dernière saison là, de Danse avec les Stars, etc., il y a beaucoup de... Tu peux partager mon écran, la régie, s'il
te plaît ? Tu vas me parler des écrans ?
Ouais, il y a beaucoup d'écrans derrière. Hop là, non. En intelligence artificielle, il y en a énormément.
Ouais.
Ah, purée. Ah, vas-y, arrête de partager mon écran 2 secondes. Voilà, donne-moi 1 seconde. Tac, je m'embrouille. Voilà, c'est bon, tu peux remettre mon écran. Vas-y. Voilà, il y a beaucoup d'écrans derrière qui vont être générés par intelligence artificielle
ouais,
comme ici.
Tout à fait.
Toi, c'est quoi ta vision sur ça et pourquoi l'avoir fait ?
Alors, il y a 2 choses. La première, ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes qui travaillaient sur Danse avec les Stars, sur la création des médias, sont les mêmes équipes qui travaillent encore aujourd'hui, en fait, sur Danse avec les Stars. Donc, on n'a pas remplacé une équipe pour, en fait, mettre l'IA. En revanche, il est vrai que... Et attention... C'est une controverse sans fin parce que sur les réseaux, on nous a.
C'est vrai ?
Ouais, on nous en a beaucoup parlé.
Tu peux enlever le partage d'écran, la régie.
La réalité, c'est qu'en fait, pour nous, imagine-toi, tu vois, que chaque semaine, on recrée quasiment un spectacle, donc une émission, mais on recrée un spectacle, en fait, de A à Z toutes les semaines. On a des lead times de travail qui sont quand même très, 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 très courts. Et en toute honnêteté, auparavant, on aurait été incapable de livrer la complexité des médias qu'on livre aujourd'hui. Et donc, en fait, la même équipe qui travaillait avant, et qui était, on va dire, tu vois, sur After Effects et qui, en fait, nous modélisait, on va dire, les écrans. Aujourd'hui, à la place de pouvoir nous en sortir 1 ou 2, ils peuvent littéralement nous faire 12 propositions sur la même semaine. Donc, pour nous, en fait, c'est un outil. Et là, pour le coup, je trouve qu'il est utilisé à bon escient. C'est-à-dire que c'est un outil accélérateur. C'est pas un outil de remplacement. Tu vois ce que je veux dire ?
En fait, c'est les mêmes personnes qui travaillaient avant, qui travaillent aujourd'hui avec l'IA qui est un outil.
C'est une nouvelle pipeline.
Oui, voilà. Ça leur permet de faire des nouvelles propositions qu'avant, ils ne pouvaient pas faire.
Ils n'auraient pas pu faire.
Oui,
bien sûr.
OK.
Bah, tu sais, modéliser, tu vois, des fluides, modéliser en fait des palais, etc. À moins que ce modèle en fait existe déjà, tu vois, dans une base de données quelque part, sur un site, il fallait le modéliser complètement. Alors que là, en fait, effectivement, tu vois, on demande. Et pour le coup, je trouve que la pipeline, il faudrait peut-être que j'en fasse une vidéo un jour de ça, mais la pipeline de travail de Black Box qui, en fait, fait les médias, elle est ultra intéressante parce qu'en fait, ils ont des prompts des fois qui... Mais le ouais. prompt en lui-même, il est ultra long, il est ultra précis.
En fait, il y a des gens qui pensent que parfois, c'est un clic. Appuyer sur un bouton, c'est un clic. Etc. Alors que c'est vraiment une itération de travail, etc. Mais est-ce que toi, tu comprends aussi des gens... Moi, tu connais ma position. Moi, je suis pour et j'adore d'ailleurs l'utilisation que vous avez fait de l'IA sur ça. Mais il y a des gens qui arrivent et qui disent, bah en fait, quitte à faire de l'IA, si vous voulez faire de l'IA, si vous avez besoin de l'IA pour faire ça, autant ne pas le faire.
Ouais, sauf que, alors, dans ce cas-là, on arrive dans une situation où nous, notre métier, il n'est pas là pour en fait se dire est-ce qu'on fait ou on ne fait pas le spectacle. Nous, notre métier, il est de créer un spectacle, il est de créer une émission de télévision. Quand tu es en flux tendu et en direct, comme on l'est en fait nous sur Danse avec les Stars, l'idée est simplement de présenter le truc le plus fou possible, quel que soit l'outil. C'est comme si tu me disais, tu vois, il y a peut-être 4 ans, tu as le droit d'utiliser After Effects, mais tu as le droit d'utiliser aucun des plugins qui vont avec. Pourquoi en fait je comprends pas.
Ouais, c'est ça.
Je comprends pas.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que l'intelligence artificielle a volé le travail des artistes pour pouvoir produire des contenus comme ça. Et donc, en réutilisant ça, ce n'est pas une utilisation éthique de la chose.
Mais sur ça, ils ont raison. Et ça, il faut dire la vérité. Sur ça, ils ont raison. Le sujet de son utilisation ensuite est encore autre chose. Mais sur la façon dont on a développé, en fait, les bases, pas les bases de données, mais...
Les bases d'entraînement de nos LLM.
En fait, à un moment donné, il y a effectivement un problème. Si nous étions une petite boîte qui essayons de faire la même chose, on aurait été en fait dans un procès il y a très très longtemps pour utilisation de propriétés intellectuelles non autorisées, tu vois. Là, c'est pas le cas.
Et du coup, dernière question, et après, je sais qu'il faut que tu y ailles, donc je vais te laisser. Mais
là, ça va, je te dis franchement, je suis tellement bien, on est tellement climatisé. Franchement, moi, je reste autant que tu veux. Je te parle de mécanique.
Non mais c'est bingo, tu sais que les gens dans le chat, ils ont dit non mais attends, le bingo est fou, j'ai entendu Chris Marquez me parler de SAP. Mais tu sais qu'il y a plein de gens, ils te découvrent là, cette casquette, c'est incroyable. Mais du coup, moi j'ai une question. Ouais. Toi qui as vécu le début d'Internet, qui a vécu de l'intérieur avec des propositions jusqu'à la Silicon Valley, comment est-ce que tu vois et tu vis cette révolution qu'on est en train de vivre avec l'IA, avec ta casquette, de personnes qui travaillent dans le divertissement, dans du monde entouré de créatifs aussi, etc., etc. Est-ce que tu as l'impression qu'on revoit une même mécanique ou qu'est-ce qui change par rapport aux années, au début des années 2000?
Non, il y a une... En fait, dans les années 2000, tes possibilités étaient limitées par mécaniquement, est-ce que ton idée est faisable? Existe-t-il quelque chose qui te permette de créer ton idée? Aujourd'hui, en fait... tes possibilités sont uniquement limitées par ton imagination. Après, je mets un bémol, c'est qu'en fait, tu peux avoir toute l'imagination que tu veux, mais il faut quand même avoir les compétences pour en fait sortir quelque chose de l'IA. Tu vois, moi, je pense personnellement qu'un mauvais auteur sortira toujours un mauvais texte de l'IA. Un mauvais directeur artistique n'arrivera pas à sortir quelque chose de magnifique de l'IA. Donc moi, je vois ça vraiment comme un outil. En revanche, c'est un outil accélérateur tellement, tellement fou. Moi, je vis aujourd'hui, je te dis franchement, j'ai l'impression que je vis dans le futur. Je sais ce que c'était avant. Quand tout d'un coup, tu vois, t'essayais de faire un truc et tu te heurtais en fait à une impossibilité technique. Aujourd'hui, en fait, elle est où ton impossibilité technique? Alors attention, je vois plein de gens qui disent « Ouais, on n'a plus besoin de développeurs, on n'a plus besoin de personnes. » Je vais te dire un truc. Sors et utilise tous les agents que tu veux, mets-les tous en même temps et fais-les tous bosser sur une appli que tu as en tête. C'est génial. Ton appli, elle va se faire, elle va exister. Le premier jour où tu as un problème, tu ne comprendras même pas la structure de tes fichiers qui composent ton application. Donc, je pense quand même qu'il faut faire attention à se dire « Oui, tout est possible, mais il y a quand même un degré de compétence ultra nécessaire avant même de se dire « Je vais pouvoir faire ça. »
Et est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourrais aimer une vidéo de danse full générée par IA?
Ah. Tu vois, le problème, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas cette limitation. J'ai pas de problème avec ça. Moi, tu sais, je suis fan de science-fiction. J'ai pas de problème, en fait, avoir un alien en train de danser Billie Jean, tu vois. Ça me dérange pas. On peut créer du beau avec l'IA. Moi, je. Alors sur ça, je pense que c'est un faux débat. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Et après, tu vois, on va très très loin, mais quand les gens commencent à dire, tu vois, ouais, mais en fait, il y a pas ce qui nous rend humains à l'intérieur d'une image IA. J'ai envie de te dire, quand je vois certains rendus, ne serait-ce que photographiques, je parle même pas de vidéo, mais quand je vois certains rendus photographiques et que je me dis, ok, il y a quand même une finesse et un choix qui a été fait par cette IA sur le grain de cette image, sur l'optique qu'elle a utilisée, sur cette lumière. Alors oui, il y a plein d'exemples où c'est naze.
Oui, il y a plein de détails où c'est naze aussi.
J'en ai marre de voir des loups devant une lune avec des néons autour. Je comprends pas, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Mais ça, je pense que c'est plus une question de goût et de direction de l'IA. Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir aimer une danse qui sera créée par une IA? Je pense que la question se pose même pas, parce qu'en fait, la réalité, c'est que depuis qu'on regarde Toy Story, on s'est jamais posé la question. Est-ce qu'en fait, on est capable d'aimer des personnages virtuels qui ont été créés dans Maya? Oui. Oui, parce qu'on adore Woody. On n'a pas de problème à l'aimer. Donc, pourquoi ce serait différent si c'est une IA qui le crée?
Et t'as essayé de générer des chorégraphies, toi, avec l'IA ou...
Non, parce que pour le coup, ça m'intéresse pas. Générer une chorégraphie à travers l'IA m'intéresse pas du tout. En revanche, tu vois, travailler, par exemple, là, tu vois, j'ai une tournée qui part, le moment promo. J'ai une tournée qui part à la fin de l'année, tu vois, dans tous les zéniths, dans toute la France, qui s'appelle la tournée des pros de Danse avec les Stars. Je vais avoir un écran. Et dans cet écran, effectivement, je vais travailler avec mes graphistes, mais on se sert de l'IA justement pour itérer des versions d'architecture. Est-ce que je peux potentiellement, tu vois, partir sur ce look, qu'est-ce que je devrais y rajouter, etc. Et donc, ouais, l'IA maintenant fait partie intégrante de notre pipeline et de nos workflow.
Alors, je vais essayer de gratter en coulisses, mais est-ce qu'il y a eu des danseurs sur Danse avec les Stars qui n'étaient pas contents d'avoir des images générées par IA derrière eux?
Non. Non, parce que tu sais, on est nous pour le coup, et les danseurs, et je parle pour eux, tu vois, ils sont dans un flux tellement tendu. Ce qu'il faut vraiment se dire, tu vois, c'est que c'est quand même particulier de se dire, ton corps est ton outil. Tu as 5 jours pour apprendre à un non-danseur ou une non-danseuse à danser, et en fait, pendant 2 minutes, toi en tant que pro, tu danses avec un amateur devant des millions de personnes. Je vais te dire un truc, tu n'as le temps de t'occuper de rien d'autre. Ils peuvent pas s'occuper de ce qu'il y a dans l'écran, de la lumière, etc. Non, ils s'en occupent pas.
Et est-ce que tu penses qu'un jour, une IA pourra juger la danse des candidats? Est-ce qu'on pourrait remplacer Chris Marquez avec une IA?
Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, tu vois, il y a quand même déjà des choses qui commencent à se mettre en place. Je pense notamment, tu vois, il y a une appli française d'ailleurs qui s'appelle Dance Air. DANC espace R, où en fait, eux, ce qui est intéressant, c'est que, alors, c'est un mélange, hein, c'est un mélange de plusieurs choses, mais ils arrivent à recréer de façon très simple l'articulation, tu vois, de l'individu, le squelette, on va dire, de l'individu, quand il est en train de danser. Et en fait, ils permettent à quelqu'un de danser également, et en fait ils vont matcher les deux squelettes,
okay,
pour voir le degré d'approximation, tu vois. C'est un peu le principe du jeu Just Dance, tu vois.
Bien sûr.
Je pense que si on arrive à faire ça déjà, et qu'en plus de ça, on va pouvoir entraîner, si on part du même principe, hein,
oui, bien sûr,
on va pouvoir entraîner avec toutes les vidéos de danse et tous les spectacles qui existent au monde, une IA, je pense que cette IA pourra émettre en fait un avis assez juste sur une performance.
Mais ça serait une performance, du coup, un avis uniquement sur la performance technique. Dans Danse avec les Stars, vous jugez aussi beaucoup l'attitude, la manière, ce que dégage la personne aussi.
Ouais, mais tu sais, en fait, c'est là où je trouve qu'il y a des vraies difficultés quand on parle d'IA. Parce que on essaye... je vais m'attirer les foudres de plein de gens, là.
Non,
mais en fait, on essaye de se dire que l'humain a quelque chose de sacré et de différent.
OK.
La réalité, c'est... Quand on est en train de vraiment se poser la question de qu'est-ce qui nous rend humain, c'est juste, en fait, la capacité de choisir. C'est la capacité de s'auto-améliorer. C'est la capacité de... Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je me dis... Qui me dit qu'une IA ne sera pas capable? Si elle est capable maintenant, une IA générative est capable maintenant, assez justement, de reproduire une émotion sur un visage, sur un plan serré en photo, qu'est-ce qui me dit que cette même IA ne sera pas capable, en fait, de déterminer, ah, là, ce danseur est aligné, en fait, émotionnellement avec le mouvement et l'énergie qu'il est en train de mettre dans son mouvement. Pour moi, tu sais, j'ai une façon assez analytique de voir le monde, et donc je me dis, tout n'est qu'analyse. Donc je me dis, pourquoi il serait pas capable, en fait, d'avoir une opinion un petit peu plus poussé sur l'émotion.
Et ça te fait pas peur, ça, si demain on te dit on remplace Chris Marquez par une IA pour danser avec les stars?
Je pense que beaucoup de personnes seraient très contentes.
C'est, t'as une réputation. T'as une réputation à tenir.
Mais non, mais tu sais quoi, à quoi ça sert d'avoir peur, en fait? Ce qui est vrai, c'est que j'ai peur du fait qu'on ne soit pas assez en train de... J'ai pas envie de dire contrôler, mais je pense qu'on devrait avoir un tout petit peu d'avance sur les boîtes d'IA et qu'on devrait être capable de leur dire, tu vois, par exemple, regarde, j'arrive toujours pas à comprendre si le ban américain de Mythos,
ouais,
c'est littéralement dû au coup de marketing de génie d'Anthropique,
moi je pense
qui en ont fait des caisses partout, ou s'il y a réellement en fait un vrai danger, tu vois, dans ce modèle. Qu'il ait découvert des failles, des bugs, etc. Bien sûr, je comprends, pas de problème, génial. Et il paraît qu'il a été ultra efficace dans ce domaine-là. Mais so what, en fait? So what? Est-ce qu'il y a vraiment un danger sur ça? On devrait être, nous, capables, et ça, je pense que c'est de façon, et c'est fou, hein, mais de façon gouvernementale, je pense qu'on a peut-être un décalage. C'est-à-dire que les boîtes de l'IA qui sont à la frontière de cette technologie sont trop en avance par rapport à la compréhension gouvernementale qui encadre juridiquement, en fait, leur activité. Putain, je vais me faire défoncer.
Non, mais c'est ultra, ultra pertinent et ultra intéressant parce que toi, t'as vraiment une vision de quelqu'un qui en fait... je pense que c'est rare, hein, d'avoir cette vision de quelqu'un qui est à l'intérieur d'une machine, qui est surtout du divertissement, de quelque chose de création, etc. Et en fait, tu te dis, what's the next plan? Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Et il faudrait qu'on prenne aussi de l'avance sur les cas d'usage, peut-être. Et donc, let's go pour l'expérimentation. Finalement, plutôt que ça va nous tomber à un moment donné dessus et plein de personnes parlent, en font des caisses, etc. Donc, venez, on essaye et on regarde qu'est-ce qui se passe.
Tu vois, je pense qu'en fait, on devrait traiter l'IA et l'intelligence artificielle comme la médecine. On ne laisse pas faire n'importe quoi à l'industrie pharmaceutique. On essaye d'être dessus, on essaye de prendre de l'avance et on essaye de mettre en place des garde-fous. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, en fait, l'IA est une technologie qui est tellement transformationnelle en termes de société qu'elle devrait avoir ce statut également comme la médecine, c'est-à-dire que on doit avoir, je ne dis pas la main dessus, on ne doit pas freiner son développement, mais en tout cas, on doit l'encadrer pour ne pas retomber dans un problème.
Incroyable. Chris, je ne veux vraiment pas te prendre trop de temps. Tu es là depuis 25 minutes.
Bah, ça a été un vrai plaisir. Hein.
Merci.
Je passe un super moment avec toi.
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Je suppose que tu vas avoir des... Chris Marquez, Serge le mytho.
Non, pas du tout.
Je t'assure que c'est la vérité de ce qui m'est arrivé.
Il y a surtout des Chris Marquez immensément basés, les avis. Incroyable. J'ai adoré parler de ça avec toi.
Merci
à
toi.
Je vais te raccompagner. Et
top.
À bientôt, Chris Marquez. Et tu repasses quand tu veux, en fait. Et